grosses têtes.
Les grosses têtes au carré.
Oh, oh, oh.
Carré. Décortiquer, analyser, commenter l'actualité scientifique. C'est jusqu'à 15h sur France Inter.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver avec nos grosses têtes au carré pour commenter l'actualité scientifique de la semaine. Au menu de nos discussions cet après-midi, du nouveau autour de la ceinture d'astéroïdes, les bénéfices du pot à pot pour les prématurés. On parlera des aurores boréales et nous irons en Islande pour cela. Et puis on évoquera un nouveau magazine autour de l'innovation à la télévision. Nos grosses têtes au carré aujourd'hui, Charlotte Bouvard, Benoît Carry, Arnaud Guérin et Raphaël Litty. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue Charlotte Bouvard, vous êtes la directrice de l'association SOS Prématurés. On va parler avec vous de cette étude menée par des chercheurs israéliens qui montrent que les bienfaits de ce qu'on appelle le pot à pot, donc entre la mère et son bébé, eh bien ces bienfaits vont bien au-delà des premiers mois de vie avec des conséquences très positives sur le lien entre les bébés et leur maman. Benoît Carry, vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris et vous venez de publier dans la revue Nature avec un confrère une carte complète de la composition des astéroïdes situés donc dans la ceinture principale. Un travail très précieux, on le verra, pour comprendre la formation et l'évolution de notre système solaire. On partira donc en Islande rejoindre le géologue Arnaud Guérin. C'est en ce moment la pleine saison des aurores boréales. Arnaud Guérin est parti les chasser. Il va nous décrire ce phénomène évanescent et fascinant. Et puis enfin, la télévision s'intéresse à l'innovation. Arte propose à partir de demain à 13h15 Futur Mag, un nouveau magazine scientifique consacré aux hommes et aux femmes qui innovent un peu partout dans le monde. Raphaël Litty, vous êtes journaliste scientifique et donc l'animateur de Futur Mag. Premier rendez-vous donc demain. On en parle avec vous dans la fin de l'émission. Voilà donc pour les sujets de ces grosses têtes au carré. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre dès maintenant avec vos questions et vos messages sur le site de l'émission franceinter.fr et puis également sur Twitter avec le hashtag LaTAC. Et puis comme tous les vendredis, on retrouvera la semaine dessinée de la tête au carré, les moments marquants de cette semaine qui seront également à découvrir en vidéo avec les illustrations d'Aurélie Bordenat. Voilà donc pour le sommaire de cette émission qui est réalisée par Violaine Ballet, dossier préparé par Anne-Cécile Perrin avec Chantal Le Montagnier et Antoine Bon voisin.
Tu tournes dans ma tête comme un carrousel, à ton malade me plaît.
Et c'est Carousel avec Peter, extrait d'un album qui sort ces jours-ci.
Les grosses têtes.
Les États-Unis ont dit c'est le gaz de schiste. Carré. Tout le monde suit. Et ben, ce sont des comportements moutonniers idiots.
Ce dont on va parler, ce n'est pas de cannabis, ce sont des extraits de cannabis. Et tout est dans cette nuance.
Les grosses têtes au carré.
Jules.
Mathieu Vidard.
Vous savez que si on n'a pas une horloge atomique avant l'âge de 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie.
Sur France Inter.
Les grosses têtes au carré avec l'actualité scientifique de la semaine. On parle aujourd'hui de la ceinture d'astéroïdes, du poids à poids entre les bébés prématurés et leurs mamans. On partira en Islande observer les aurores boréales et puis on découvrira un nouveau magazine télé autour de l'innovation. Vous parlerez peut-être des horloges atomiques d'ailleurs, Raphaël Ittier, dans ce numéro de Future Mag, enfin dans ce magazine en l'occurrence.
Pas dans le premier numéro, mais effectivement, ouais. ça peut venir.
Ça peut faire partie des sujets à venir. Donc premier numéro en tout cas de Future Mag demain sur Arte à partir de 13h15. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Vous êtes entouré de Charlotte Bouvard, donc de l'association SOS Préma, l'astronome Benoît Carry, et puis donc on ira en Islande retrouver le géologue Arnaud Guérin. Et Benoît Carry, c'est avec vous que nous commençons. Vous travaillez donc à l'Observatoire de Paris et on va faire un grand voyage avec vous pour évoquer cette ceinture principale d'astéroïdes, puisque vous venez de publier avec une confrère dans la revue Nature et bien une carte complète de la composition des astéroïdes situés dans cette ceinture. Racontez-nous d'abord où se trouve exactement cette ceinture d'astéroïdes et comment elle s'est formée au départ.
Alors la ceinture principale d'astéroïdes se trouve entre Mars et Jupiter. C'est le principal réservoir d'astéroïdes qu'on connaît dans le système solaire. Il y en a à peu près 600 000, enfin un peu plus de 600 000 connus.
Ouais.
Et l'origine de cette ceinture est au début du système solaire. Vous avez tout le gaz, la poussière qui se contracte par gravité. Au milieu, l'étoile naît. Et autour de cette étoile, un disque de poussière et de gaz tourne, le gaz, la poussière s'agglomèrent en formant des petits cailloux, puis des cailloux plus gros, puis des planètes. Donc les planètes, on voit bien où elles sont. Et ouais. Les astéroïdes sont juste le matériel qui n'a pas été utilisé.
Ouais.
C'est les briques de
c'est
construction.
C'est les déchets un petit peu.
Ah, fait. Complètement, c'est ouais. Vraiment les déchets de la construction du système solaire.
Ouais. Et qui sont toujours en train de tourner au même endroit en fait.
Tout à fait.
Ouais. Donc depuis le début de la création du système solaire et des planètes, donc on a cette ceinture. Pourquoi on dit ceinture principale? Il y en a d'autres à d'autres endroits ou pas?
Alors, pourquoi ceinture principale? C'est parce que oui, on a des astéroïdes aussi qui, par exemple, croisent l'orbite de la Terre.
Ouais.
Quand vous avez des météorites qui tombent sur Terre, c'est un astéroïde qui avant était dans l'espace et qui tombe sur Terre. La ceinture principale, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre, donc 600 000 sur les 630 000 connus.
Ouais.
Et puis une autre ceinture, qu'on appelle la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, avec des corps beaucoup plus froids.
Ouais.
Et vous demandiez pour s'ils étaient là depuis le début du système solaire. Bah oui, effectivement, ils sont là depuis 4 milliards et demi d'années. Et pourquoi on étudie les astéroïdes? C'est parce que justement, ils sont là depuis le début. Et contrairement à la Terre, Vénus, les autres planètes, où le matériel a été processé, il a évolué avec le temps, les astéroïdes sont tellement petits qu'ils n'ont pas d'énergie. Il n'y a pas de tectonique des plaques, il n'y a pas de volcanisme. Et donc
ouais.
La composition que vous voyez maintenant, c'est la même que celle d'il y a 4 milliards et demi d'années.
Ouais. Donc évidemment, ce sont des documents et une mémoire absolument extraordinaire sur l'histoire du système solaire.
C'est ça, c'est les témoins c'est des premières étapes.
Ouais. Alors ces astéroïdes avec des tailles évidemment très, très variables, on a des objets assez modestes et puis de jolis monstres aussi.
Tout à fait, le plus gros s'appelle Cérès, fait 1000 km,
ouais.
Donc vous imaginez, hein, la moitié de la taille de la Lune, c'est quand même gros.
Oui, ouais, c'est une belle bête.
C'est une belle bête et puis ben, en taille ça va jusqu'à la poussière, donc les plus petites poussières, vous pouvez imaginer c'est du micron, donc
ouais.
On parle de poussière, mais sinon ben, d'un astéroïde, une boule de 10 cm, une boule de billard, c'est encore un astéroïde.
Ouais.
Vous avez de 1000 km au centimètre.
Voilà. Et donc on en estime exactement le nombre, on sait exactement combien il y en a dans le système solaire. On a réussi à les compter de quelle façon alors? Qu'est-ce qu'on a comme outil pour ça?
Ben, les télescopes,
ouais.
Donc, on regarde dans le ciel, et toute chose qui bouge dans le ciel n'est pas une étoile. Et au final, en reconstruisant les orbites, on trouve où ils sont situés dans le système solaire. Et donc la plupart sont entre Mars et Jupiter. Et à l'heure actuelle, on connaît donc à peu près 630 000. Et on
ouais.
Estime, vu justement la distribution depuis les gros vers les petits, qu'il y en a plusieurs millions entre Mars et Jupiter.
Ouais. Alors votre travail justement, Benoît Carry, avec votre collègue, c'était quoi? C'était d'étudier la composition de ces astéroïdes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors au fond et qui justifie cette publication là qui vient de paraître, hein?
Alors, ce qui est nouveau, c'est le nombre d'astéroïdes que nous avons étudiés. On a étudié la composition d'astéroïdes. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait depuis une quarantaine d'années. Hein. Et encore une fois, on étudie la composition d'astéroïdes pour comprendre qu'est-ce qui se passait il y a 4 milliards et demi d'années. Et donc, dans les années 80, les gens avaient fait environ 600 astéroïdes, trouvé que plus on était près du Soleil, plus les astéroïdes avaient l'air chauds, avaient l'air évolués. Et puis, plus on était loin, plus ils avaient l'air froids et primitifs. Et donc, tout le monde disait, ben super, le système solaire s'est formé exactement comme il est maintenant. Vous êtes près du Soleil, vous êtes chauffé, vous êtes loin, vous êtes froid.
Ouais, donc, scénario était clair, bien établi.
Bien rangé.
Et on ne discutait pas tellement là-dessus, au fond. Hein.
Non,
ouais.
Il n'y avait pas non plus besoin. Toutes les observations marchaient avec ce modèle-là. Et puis quand même, dans les années 90, on a commencé à découvrir des exoplanètes, donc des planètes autour d'autres étoiles.
Ouais.
Et en particulier, on trouvait des planètes aussi grosses que Jupiter, mais collées à leur étoile, plus proches de l'étoile que ne l'est Mercure. Donc les gens commençaient à se dire, mais comment on peut faire des systèmes solaires comme ça, vraiment des monstres? Et puis l'idée est venue que peut-être les systèmes solaires se formaient d'une manière, et puis ils n'avaient aucune raison de rester statiques, qu'ils pouvaient changer, la structure pouvait changer. Et donc ça expliquait pas mal de choses sur les exoplanètes, et les gens se sont dit, oui, mais pourquoi c'est pas comme ça chez nous?
Ouais.
Et dans, alors ça, c'est au début des années 2000, il y a tout un groupe de dynamiciens, de théoristes, qui ont mis en place un modèle qu'on appelle le modèle de Nice, principalement fait par des gens à Nice, où ils ont expliqué que effectivement tout avait pu bouger dans le système solaire et que ben, Jupiter s'était pas formé à sa place, Uranus, Neptune en fait avaient été envoyés vers l'extérieur, poussés par Jupiter.
Ouais.
Et puis
une vraie partie de billard, exactement.
Ouais, voilà, c'était le billard cosmique. Et que donc on aurait dû avoir un certain mélange dans la ceinture principale, puisque cette fois-ci vous avez des petits cailloux qui sont faits de très loin à très près. Vous envoyez Jupiter comme une boule de bowling dans le jeu de quilles,
ouais.
Et évidemment vous retrouvez des quilles partout.
Ouais.
Et donc ce qu'on aurait dû voir, c'était un genre de pot-pourri du système solaire entre Mars et Jupiter. Et donc au début des années 2000, on avait quelques petites exceptions, des astéroïdes qui se comportaient pas bien gentiment. Donc on avait des choses froides un peu proches et puis des choses chaudes un peu loin. Et en fait là, ce qu'on a fait avec ma collègue Francesca De Meo du MIT, c'est on est passé donc de, on va dire, 2000, 3000 astéroïdes pour lesquels on connaissait la composition à 100 000.
Ouais.
Donc on a beaucoup plus d'objets, on a pu aller voir sur des objets beaucoup plus petits. Et une fois qu'on regarde ce qui se passe entre Mars et Jupiter, on se rend compte que c'est vraiment un mélange énorme. Alors, pour les gros objets, évidemment, hein, les gens des années 80 avaient très bien travaillé, on retrouve la même chose. Mais quand on va voir les objets plus petits, on se rend compte qu'il y a un énorme mélange partout. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ça confirme bien les modèles façon Nice. Donc, on retrouve une histoire très bousculée, très dynamique dans le système solaire. Et par contre, aussi, l'intérêt de ce qu'on a vu, c'est que si, dans les grandes lignes, ça marche bien avec ces modèles-là,
ouais.
Il y a des petits détails à droite, à gauche, qui ne sont pas reproduits par les modèles. Et donc, en fait, ben, comme toujours en science, hein, vous résolvez une question, vous trouvez quelque chose, puis il y en a 5 nouvelles qui s'ouvrent.
Ouais.
Et donc là, on va pouvoir en fait renvoyer la balle un peu dans le camp des théoriciens pour dire, ben, maintenant, expliquez-nous pourquoi on voit ce type d'astéroïde à cet endroit et celui-ci à celui-là.
Ouais. Donc c'est une belle carte, hein, que vous avez redessinée au fond, vous avez réactualisé, on pourrait dire, les choses comme ça.
Oui, on a redessiné la carte des matières entre Mars et Jupiter.
Mmh. Charlotte Bouvard.
Oui, enfin, j'ai une question, parce que ça amène des questions. Qui est-ce qui joue là-haut? Au bowling.
Oh là là,
qu'est-ce qu'il joue?
Qui lance la boule de bowling?
Qui lance la boule?
Des gravités.
Raphaël, allez-y.
Si le système solaire a un passé aussi mouvementé, est-ce qu'il peut aussi avoir un futur qui va dans la même direction? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça sera un peu stable et ça pourrait se déstabiliser? Ou est-ce que ça, c'est figé?
Alors non, quand même, il y a des gens qui ont étudié la stabilité du système solaire. Et de maintenant à plus tard, c'est quand même assez stable. Ça va, on ne va pas... On ne va pas prendre Jupiter sur le coin du nez après-demain. Mais en fait, la principale raison de tout ce bousculement au début du système solaire est que, comme je disais, au début, vous avez l'étoile au centre, un disque de gaz et de poussière. Et en fait, ça frotte. Vous avez les petits cailloux, les gros cailloux qui frottent sur le gaz. Quand vous frottez, en fait, ça change l'orbite.
Ah.
Donc, comme vous changez l'orbite, vos planètes se déplacent dans le système solaire. Maintenant, il n'y a presque plus de gaz dans le système solaire entre les planètes. Donc, en fait, maintenant, elles sont simplement régies justement par la gravité, ce que vous demandez. Mm-hmm. Donc, c'est une jolie ellipse et puis ça reste stable pendant très longtemps. Donc, tout le bazar qui s'est passé au début est dû à l'interaction gaz-poussière.
Et est-ce qu'il reste assez de gaz ou d'astéroïdes pour former une nouvelle planète à longue échéance?
Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des petits résidus encore qui changent la donne?
Alors, dans la ceinture principale, vous avez des collisions tout le temps.
Ouais.
D'accord. En termes de masse, il faut voir que tout le demi-million d'astéroïdes qu'on connaît fait même pas un millième de la masse de la Terre. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose. Mais surtout, ce qui empêche une nouvelle planète de se former à cet endroit-là ou de s'être formée, c'est l'interaction dynamique avec Jupiter. C'est-à-dire, en fait, les orbites entre Mars et Jupiter sont excitées par Jupiter, qui leur donne suffisamment de vitesse pour que les collisions soient plus destructives que constructives.
Ouais. Et Benoît Carrier, alors sur la composition même des astéroïdes, comment vous travaillez pour savoir comment est composée la roche? Qu'est-ce que vous envoyez comme type d'appareil?
Alors là, on a tout fait depuis le sol. Il y a un grand relevé qui s'appelle le Sloan Digital Sky Survey, donc SDSS,
mm-hmm.
qui est un télescope au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, où le but des gens qui opèrent ce télescope est de chercher des galaxies, d'étudier des galaxies dans le ciel. Donc ce qu'il faisait, c'est toutes les nuits, il prenait plein d'images du ciel à plusieurs couleurs. Et c'est là où toute l'astuce, c'est les plusieurs couleurs. Donc vous prenez une photo du ciel, vous voyez des étoiles, des galaxies, et puis il y a des astéroïdes qui passent aussi dans les champs. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a utilisé les données qui étaient mises à disposition de ce survey pour non pas étudier les galaxies, mais les astéroïdes.
Et il n'était pas dédié du tout aux astéroïdes, d'ailleurs,
ce
télescope. Hein.
Pas du tout. Ouais. Et donc, une fois qu'on récupère les 400 000 astéroïdes qui passent par hasard devant le télescope et qu'on en prend les couleurs, en fait, en analysant les couleurs, on arrive à remonter aux minéraux. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais suivant comment se comporte la lumière à différentes longueurs d'onde, les couleurs, on arrive à dire qu'il y a tel type de minéraux.
Donc on a vraiment une grande précision sur cette composition.
Ah si, oui.
Ouais. On a une question d'auditeur, en tout cas sur Twitter, qui nous rejoint et qui vous demande comment se poser sur un astéroïde à très faible gravité, référence à Rosetta peut-être,
Rosetta,
qui nous intéresse beaucoup là.
Tout à fait. Donc comment se poser sur un astéroïde? Mais exactement pareil que si on se posait sur une planète. C'est juste qu'il est beaucoup plus dur, puisqu'en fait, comme l'astéroïde a peu de masse, effectivement, il nous attire moins. Donc à partir du moment où on essaie de naviguer dans l'espace, il va falloir être très précis dans ces petits coups de booster qu'on met sur la sonde.
Oui.
Mais sinon, c'est le même principe.
Et en ce moment, donc, il y a une sonde qui est en partance, justement, pour rejoindre un astéroïde au mois de novembre. Hein. Ce sera à ce moment-là qu'on aura justement l'appareil qui va se poser sur cette comète. Pardon,
c'est une comète.
Absolument, Rosetta étant une comète.
Voilà. Enfin, Rosetta, la mission qui va sur une comète.
Voilà.
Vous en avez parlé la semaine dernière,
absolument.
À la tête au carré.
Et ce sera pour le mois de novembre. Si mes souvenirs sont bons, mais c'est la fin de semaine, on est un petit peu fatigué. Merci en tout cas, Benoît Carré, pour vos explications. Vous restez avec nous donc, avec cette publication qui est sortie cette semaine autour de la composition donc des astéroïdes et cette cartographie magnifique que vous avez réalisée. Vous avez toujours chaud, Charlotte Bouvard, apparemment. Tout le monde s'est mis en t-shirt depuis le début de l'émission. Tout le monde s'est mis en t-shirt. Voilà. Émission extrêmement détendue cet après-midi. Vous êtes la directrice de l'association SOS Préma. On va parler avec vous d'une autre publication très intéressante. Avec donc ce pot à pot, c'est ce contact physique instauré dans les services de néonatalogie pour favoriser le lien, justement, entre la maman et son bébé prématuré. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une pratique qui est devenue assez banale aujourd'hui?
Alors oui, juste avant Mathieu, si vous me permettez, je vais revenir à ce que c'est que la prématurité. Donc la prématurité, c'est une naissance avant 8 mois de grossesse. Et c'est 60 000 enfants par an en France, c'est-à-dire 7 à 8% des naissances. Donc on parle d'un sujet quand même, d'un problème de santé publique. Oui, alors pour répondre à votre question, ça s'est banalisé, ou plutôt enfin, ça s'est banalisé. Maintenant, ce n'est pas autorisé partout et ça n'est pas, les pratiques ne sont pas harmonisées.
Mmh. Donc en France, on a quand même cette pratique qui existe,
ouais,
et dans de nombreux pays du monde, puisque c'est la Colombie, je crois, qui a commencé au départ.
Oui, c'est-à-dire par manque de moyens, on s'est rendu compte que lorsqu'un nouveau-né prématuré a été mis contre le ventre de sa mère à la naissance, donc le pot à pot, c'est le bébé est nu contre la peau de la mère ou du père, eh bien, il régulait plus sa température, les apnées, c'est-à-dire les pauses respiratoires, diminuaient, les cris diminuaient, la douleur diminuait. Donc, les recherches sont assez nombreuses sur le sujet.
Ouais, et ça continue donc, puisque c'est l'objet de cette invitation. On va en parler avec vous dans un instant. Déjà, des questions, Benoît Carry, Raphaël Littier, allez-y.
Oui, quand vous dites peau à peau, c'était quelle fraction du temps? En fait, c'était peau à peau 24 heures par jour ou sur des intervalles un peu plus restreints?
Alors, l'étude dont on parle, c'est une heure par jour pendant 14 jours sur la moitié de 150 prématurés. Donc c'est une étude qui est sortie cette semaine, donc il y a eu un article dernièrement, sur une étude sur 150 enfants, mais c'était des mamans qui étaient volontaires. Donc on s'est rendu compte que ce pot à pot avait un bénéfice. Oui, je vous vois secouer la tête. Effectivement, ça a des limites parce que c'était des parents volontaires. Mais on voit que les bénéfices vont jusqu'à l'âge de 10 ans puisque les enfants sont plus aptes à écrire, plus aptes à lire. Donc, il y a vraiment des bénéfices.
À long terme,
sur 10 ans.
C'est vraiment ce que montre en tout cas cette étude parue dans la revue Biological Psychiatry. Raphaël.
Mais le pot à pot, ça veut dire on est en contact permanent avec l'enfant ou est-ce que c'est
Alors, la pratique
par
en
moment.
France, c'est par moment. Alors d'abord, il faut savoir que tout le monde ne peut pas faire de peau à peau. D'abord, il faut un service, il faut une réflexion du service de néonat, déjà, pour instaurer ça, parce qu'il faut des moyens, il faut de la disponibilité, donc des moyens, du personnel médical. Ensuite, il faut que les parents soient prêts. C'est pas rien d'avoir un enfant qu'on doit débrancher de la couveuse et remettre dans les bras de la mère ou du père. Et il faut que le bébé soit prêt. Donc parfois, si l'enfant n'est pas stable,
ça n'est pas possible.
Voilà, absolument.
On ne peut pas le faire dans toutes les conditions.
Et puis, je parlais d'harmonisation de cette pratique, puisque dans certains services, on ne fait pas de peau à peau lorsqu'il est en réa, puisque c'est trop de moyens, c'est très perturbant, c'est très difficile à mettre en place. Mais il faut que ça soit une volonté, en fait, une volonté de tout le monde. Et dans certains services, c'est pour tous. Donc c'est vrai qu'on aimerait, nous, à l'association, on réclame, avec les médecins, la Société française de néonates, on réclame une harmonisation des pratiques. Et donc plus de moyens. Il faut qu'on se dise que ces enfants-là, c'est nos plus petits, nos plus fragiles, c'est notre avenir. Donc il faut qu'on se donne les moyens de faciliter ce lien qui a été très abîmé au départ. Pour mes mots, le vécu de parents de Préma, c'est un accouchement qui ressemble à tout sauf à ça. C'est une amputation. Souvent, on parle de ça par césarienne. On vous arrache votre bébé. Il y a cette séparation. Le pot à pot permet de rétablir un lien qui n'existait pas au départ.
Avec des bienfaits dont on va parler dans un instant et qui sont très importants et bien étudiés maintenant par les scientifiques. Raphaël Ittier.
Et est-ce que la méthode du pot à pot s'adresse uniquement aux prématurés ou aussi aux enfants nés à terme?
Alors, on le pratique beaucoup chez les prématurés, puisque comme on va le dire tout à l'heure, il y a des bénéfices qui ont été constatés. Mais on peut le mettre en pot à pot, on peut mettre des nouveau-nés en pot à pot, bien sûr, pour ce lien, c'est très important. Oui. À la maison aussi, et on le pratique beaucoup, paraît-il, lorsque l'enfant a de la fièvre.
Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple à réaliser, hein, puisque oui. L'enfant, justement, n'a pas les contraintes que vous décriviez il y a un instant. Il y a beaucoup de questions des auditeurs hein, sur cette méthode pot à pot. Larry demande si ce pot à pot ne concerne que les mamans. Il y a beaucoup de messages en ce sens. François aussi témoigne en disant, en tant que père de jumeaux prématurés en 82, j'ai partagé de façon très paritaire les tâches et les joies de mes nourrissons avec leur maman et les contacts avec leur père. Point d'interrogation, sont-ils encore oubliés ?
Alors, c'est une très bonne question parce que nous, on réclame évidemment que ça se banalise, enfin, ou plutôt ça soit harmonisé partout en France. Dans certains services, le père n'a pas le droit de faire de peau à peau. Et je trouve ça juste hallucinant. Pourquoi ? Alors qu'on voit les bénéfices. Oui. Donc, il faut absolument qu'on autorise ce peau à peau le plus tôt possible, dès que l'enfant est stable, dès que le service est prêt, dès qu'ils ont été formés, que ça soit vraiment une décision collégiale.
D'autant
qu'on
imagine que ça peut aussi soulager la maman. Qui est un relais
aussi,
du papa
sûr,
qui s'opère
bien
dans ces conditions particulières.
Ouais. Et donc, il faut que le père ait l'autorisation, ou en tout cas, il faut qu'il prenne ce droit, parce que c'est un droit.
Donc, ça ne concerne pas que les mamans, hein, pour répondre à la question des auditeurs. Benoît Carry.
Et en pratique, ça se passe comment ? Parce que pour pas que le bébé ait froid, donc vous le mettez contre la peau, et après, le père avec le bébé ou la mère avec le bébé sont entourés dans une grosse couverture.
Ouais, non, mais c'est une bonne question, parce que. Alors, il y a des bandeaux de peau à peau qui existent, qui sont très bien. Qui permettent vraiment, je vous vois prendre des notes, je crois que vous attendez des jumeaux, c'est ça ?
J'attends des jumeaux, donc je note scrupuleusement.
Voilà, il y a des bandeaux de peau à peau qui sont très bien faits, sinon c'est avec une couverture. En tout cas, il faut que ça soit de peau à peau, comme son nom l'indique, donc nu.
Oui. Alors sur les bienfaits, précisément, Charlotte Bouvard, parce que ça c'est vraiment l'essence même de cette publication. Comment ils ont réalisé d'abord leur suivi avec ces enfants prématurés,
alors,
leur maman ?
150 enfants, donc grands prématurés, qui ont pour la moitié eu le droit pendant 14 jours à une heure de peau à peau avec leur mère. Et pour l'autre moitié, est resté en couveuse.
Oui.
Et ils les ont suivis 7 fois durant 10 ans. Et ils se sont rendus compte d'abord des bénéfices à court terme, c'est-à-dire quand ils sont petits, qu'on les sort de leur couveuse. Ils se sont rendus compte, mais ça, il y a d'autres études qui le montrent, hein, qu'il y avait moins d'apnée, c'est-à-dire moins de pauses respiratoires, et elles étaient moins graves. Moins besoin d'oxygène. Le bébé est plus calme. Donc ça, c'est d'autres études aussi. Hein. Donc il y a l'augmentation du sommeil, moins de cris, moins de douleurs et moins d'agitation. Mmh. En fait, ce qui est merveilleux, Mathieu, avec toutes ces études scientifiques, c'est que ça montre l'évidence. Il suffit, je vous invite un jour à venir en néonat voir le premier pot à pot d'une mère avec son enfant ou d'un père avec son enfant. Il suffit d'observer.
Eh ben, on va se faire inviter par Benoît Carry, justement. Il pourra nous montrer comment ça fonctionne, puisqu'ils vont arriver. Il y avait autre chose de très intéressant dans cette étude, c'était l'amélioration des capacités cognitives hein, de ces enfants, donc suivis jusqu'à l'âge de 10 ans. L'étude montre justement que ces capacités étaient bien meilleures et que les enfants avaient plus de facilité pour lire et pour écrire. Donc ça va très très loin dans les bénéfices. Hein.
Absolument. On a parlé des bénéfices du bébé, mais effectivement, il y a des bénéfices aussi dans l'attachement, c'est-à-dire pour les parents aussi. Imaginez-vous, alors moi c'est ce qui m'est arrivé, vous êtes séparés de votre enfant à la naissance. Donc, vous ne le connaissez pas. L'enfant part en réa.
Vous avez été séparé combien de temps de votre
enfant ? 4 jours. Parfois, c'est 15 jours.
Ce qui doit être absolument insupportable, j'imagine, pour la maman.
Alors, c'est difficile, même si notre psychisme se met dans une bulle et voilà, on s'en rend compte un peu après, en tout cas pour mon cas. Mais, et puis, tout d'un coup, donc, vous rencontrez cet enfant à travers une vitre. Et là, voilà, on vous montre, c'est votre enfant. Eh bien, je vous assure que tant que vous ne l'avez pas contre vous, cette notion de votre enfant est très abstraite. Mais le jour où on vous le met dans les bras, c'est juste incroyable. Ça y est, il n'y a plus de doute, c'est votre enfant. Et le lien s'établit vraiment à 200%. Donc, ce qui veut dire qu'après, ces mamans qui n'ont jamais pris leur enfant dans les bras, ce qui arrivait il y a 20 ans, 30 ans en France, eh bien, on vous le ramène à la maison, donc au bout de 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois parfois. Et puis là, bah, écoutez, c'est votre enfant, donc vous allez faire les nuits, vous allez lui donner le biberon, mais vous ne le connaissez pas, cet enfant. C'est très, très, très important. Et tout ce qui est cognitif, on sait très bien que c'est les parents qui vont stimuler l'enfant. Donc, vraiment, le pot à pot est le début du lien, de l'attachement, et c'est très important pour la suite, pour l'éveil de l'enfant et pour tout ce qui va se passer dans sa vie d'adulte.
Est-ce que les parents peuvent demander, en tout cas, de pouvoir bénéficier de ce pot à pot?
Alors,
lorsque ça n'est pas pratiqué
Il faut absolument, c'est un droit, c'est vraiment, ça ne devrait même pas être possible d'interdire ce pot à pot. En revanche, donc c'est là où on a tout un travail d'association, c'est de faire remonter du terrain ce qui ne va pas. Il faut des moyens. Il faut lorsque les hôpitaux manquent de moyens parce qu'il y a des départs en congé mat ou des congés maladie et qu'il y a moins d'infirmières ou moins de puères, c'est pas de leur faute. Elles font ce qu'elles peuvent. Maintenant, il faut qu'on donne aux équipes les moyens de s'étoffer pour accompagner ces parents.
Raphaël Dittier.
Et qu'est-ce qui pousse à interdire le pot à pot? Il y a des contre-indications?
Ah, ça, c'est un vaste débat. D'abord, il faut se remettre en question. Il faut être capable de se dire que jusqu'à maintenant, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'a peut-être pas bien fait les choses. On sait, je porte aucun jugement, hein, parce que c'est vraiment des équipes formidables, mais on s'est attaché à sauver des vies. Aujourd'hui, on sauve des enfants de plus en plus tôt. Heureusement, en France, on a des limites, hein, et on les sauve bien dans la plupart des cas. Donc ça veut dire être capable de se remettre en question. Ce n'est pas facile de se remettre en question. Mais quand on arrive à se remettre en question, après, il faut être formé. On ne peut pas sortir un enfant d'une couveuse comme ça. Il y a effectivement des peurs de ce transfert entre la couveuse et les parents, et ça s'accompagne.
Il y a la peur que ça soit une prise de risque.
Absolument.
Charlotte Bouvard, SOS Préma, donc avec ce site internet sospréma.com. Vous avez 70 antennes, c'est ça,
ouais,
en France ?
70 antennes, 350 bénévoles qui sont sur le terrain et qui, entre autres, parce qu'on accompagne les parents, on a une permanence téléphonique, on a un vrai travail de sensibilisation des pouvoirs publics, mais sur le terrain, ils font des visites à l'hôpital, ils équipent des hôpitaux. Et c'est vrai que quand j'entends qu'un transat d'allaitement ou de peau à peau, c'est du matériel de confort et que ça coûte cher et qu'il vaut mieux, et qu'une chaise en fer toute droite pliante, alors qu'on vient d'être césarisé, ben, ça coûte moins cher. Vraiment, voilà, j'aimerais crier sur cette antenne, je ne le ferai pas, mais je voudrais appeler les gens à cette prise de conscience, les pouvoirs publics à cette prise de conscience, et faire un appel à dons, parce que les hôpitaux manquent de moyens, donc nous, on récolte des fonds sur le terrain, donc n'hésitez pas, tous les auditeurs. Voilà, ce soir, vous vous demandiez quel BA vous alliez faire, eh bien, sospréma.com.
Benoît, Carrie, pour terminer.
Une petite question, justement, les bandeaux comme ça, pour faire du pot à pot, ça se trouve où?
Alors, on a monté une boutique qui s'appelle la Préma Boutique, dont les bénéfices sont reversés à l'association. On trouve ça là, sinon sur Internet, vous pouvez trouver, il y a plusieurs sites.
Voilà, et Benoît Carrie poursuit ses notes, en tout cas, il a rempli son petit cahier, il est ravi, ça va être un papa heureux et épanoui. C'est dans combien de temps?
C'est pour juin.
Alors,
pour
juin. Mais je vous souhaite de pas nous appeler en tant que papa de Préma, parce que c'est pas un parcours facile.
Non. Mais je m'intéresse aussi au sujet pour des bébés à terme.
Bon, ben voilà.
Absolument.
Et puis on attend les dragées aussi à la tête.
Oui.
On sera ravis de pouvoir les déguster en fêtant vos joyeux bambins. Allez, on se retrouve dans un instant et on file en Islande pour parler des aurores boréales. Et ce sera juste après Ike et Tina Turner avec A Fool in Love. Shame. Got me laughing. Ike et Tina Turner dans ses grosses têtes au carré avec Fall in Love, alors que mes invités sont partis sur une grande discussion autour de l'allaitement maintenant. Bah, on va vous réinviter pour un dossier spécial, puisqu'apparemment vous êtes tous très intéressés pour en discuter. Mais pour l'instant, nous partons en Islande, où nous attend en direct et par téléphone Arnaud Guérin. Bonjour Arnaud Guérin.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes géologue spécialisé en volcanologie, photographe, fondateur de la société Lithosphère. Et donc nous partons avec vous quasiment au centre de la Terre, en Islande. Vous êtes là en ce moment pour chasser les aurores boréales. C'est la bonne saison là actuellement ?
Eh bien, écoutez, c'est la pleine bonne saison puisque, en fait, à l'heure actuelle, on a un temps de nuit qui est plutôt assez long.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que là, il fait jour. Le lever de soleil ce matin, c'était 9h45. Et ouais. Il fait totalement nuit à 17h.
Ah oui, c'est bien pour la grasse matinée, remarquez. Hein. C'est pas mal.
Ouais, mais alors en fait, le problème, c'est qu'avec les aurores boréales, vous faites un vrai voyage pendant la journée. Donc vous voyez des volcans, vous voyez des orques, vous voyez plein de choses. Ouais. Et puis ensuite, la nuit, vous mettez à veiller pour voir ce phénomène exceptionnel. Donc on regarde la Terre et puis on a la tête dans les étoiles.
Oui. Donc vous ne dormez jamais, en fait, c'est ce que vous voulez nous dire.
Écoutez, après une semaine, là, c'est un petit peu dur, la fatigue se fait sentir.
Alors oui, puisque vous accompagnez des personnes qui viennent vous retrouver en Islande pour leur faire assister à ce spectacle. Alors d'abord, on va parler des aurores boréales et puis expliquer exactement comment ça fonctionne. C'est la question en tout cas de Sinoc qui est arrivée sur Internet. Racontez-nous comment se forment ces phénomènes absolument magnifiques.
Alors, ces phénomènes magnifiques, c'est assez simple dans le détail. C'est le vent solaire qui est généré par les explosions qui se passent sur le Soleil et donc qui mettent à peu près 3 jours pour arriver à proximité de notre planète. Et donc, ils vont arriver dans la haute atmosphère et ils vont ioniser une partie, des atomes qui sont dans la haute atmosphère. Mmh. Ces atomes vont émettre un rayonnement qui est un rayonnement qui est visible en fonction de l'altitude et en fonction de la nature des atomes. C'est de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène. On va avoir des couleurs qui vont être différentes et ça varie également en fonction de l'altitude. Donc ça se passe dans l'hémisphère nord, on parle d'aurore boréale, et ça se passe également de manière en même temps dans l'univers austral. Donc en fait normalement et logiquement on devrait parler d'aurore polaire, puisque si on avait le don d'ubiquité, on pourrait voir les phénomènes dans les deux hémisphères.
Ouais. Et en l'occurrence, en Antarctique, on n'a pas du tout d'aurore boréale, Arnaud Guérin ?
Alors, on a des aurores, mais qui s'appellent des aurores australes. Mmh. Donc qui sont le même phénomène. En fait, c'est le champ magnétique terrestre qui va dévier ces particules. Et donc, on a un cercle auroral pour ce qui concerne l'hémisphère nord, qui est normalement, dans une activité normale, entre 65 et 75 degrés nord. Donc, ici en Islande, je suis actuellement sur la côte sud de l'Islande. Là, je suis juste à 65 et 66 degrés nord. Donc, on est juste sur la partie sud du cercle auroral. Si vous allez au Groenland, si vous allez en Scandinavie, si vous allez au Spitzberg, ça fait partie des phénomènes qui illuminent cette longue nuit boréale. Donc, ce qui est aussi à l'origine de beaucoup de croyances chez tous les peuples qui vivent dans cet univers-là.
Bien sûr.
Parce que c'est un phénomène moi j'ai l'habitude de voir des volcans en éruption, ce qui est un phénomène qui, entre guillemets, scotche quand vous êtes sur le terrain. Mais les aurores boréales, c'est un phénomène qui est un phénomène tout à fait poétique. Ça peut avoir une intensité qui est très faible et puis ça peut grandir en termes d'intensité de manière extrêmement forte, prendre des formes extrêmement différentes sous forme de rideaux, sous forme de piliers. Les couleurs varient, l'intensité varie et en fait vous ne voyez pas l'heure passer.
Alors, c'est pour ça que vous êtes très fatigué, donc.
un petit peu, oui, tout à fait. En plus, la nuit, pour tout vous raconter, hier soir, il y avait...
Ah oui, racontez-nous vos nuits en Islande, oui. Qu'est-ce qui se passe, alors ?
Alors, écoutez, hier soir, c'était, le dîner était plutôt assez sympa. Et en fait, on a jeté un petit coup d'œil à l'extérieur. La nuit était claire et on a pris les appareils photo. On est monté sur une colline pour avoir une vue dégagée. Et on a jeté l'éponge, il devait être 1h du matin parce qu'il faisait bien froid et que les aurores se sont fait juste un tout petit peu voir, mais pas grand chose. Donc il y a des moments, encore une fois, c'est un phénomène naturel, donc Il y a des moments où on a de la chance, il y a des moments où on a peu de chance. Simplement, quand vous habitez ici, il suffit de regarder la météo et vous avez les prévisions des aurores.
Ah, c'est bien.
Qui sont plutôt assez fiables. Donc, les Islandais ont ça sur leur météo nationale. Ils recoupent les données météo, puisque en fait, il faut que vous ayez un ciel dégagé, et les données de l'activité solaire. Donc, en fonction, vous avez un indice qui va de 0 à 9. Et qui permet de vous donner la température des lieux, en tout cas.
Donc, le Joël Collado islandais a quelques options supplémentaires à sa carte météo. Raphaël Itier, vous qui voyagez beaucoup pour Arte, est-ce que vous avez déjà vu des aurores boréales ?
Non, jamais. Je le regrette. Et justement, je voulais savoir si, quand on dit que c'est la bonne saison pour les aurores, ça veut dire que vous installez votre transat et que toute la nuit, ça peut s'illuminer si la météo est favorable, ou c'est des petits épisodes dans la nuit ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le phénomène a lieu en permanence. Il est uniquement visible quand il fait nuit. Donc là, c'est pour ça que l'hiver boréal, qui est caractérisé par des très longues nuits, est propice. Ensuite, en fonction de l'activité solaire, vous avez plus ou moins des phénomènes. Donc, comme je vous le disais, hier, c'était peu actif. Il y a deux jours, c'était déjà plus actif. Donc, en fonction de cette activité, vous voyez des choses qui sont des choses très différentes, mais ce n'est pas une science exacte. Donc, c'est une science... Vous êtes comme un naturaliste sur le terrain. Il y a des moments où la nature vous donne beaucoup. Il y a des moments où ça peut être frustrant.
Benoît Carry, vous en avez déjà vu, vous, des aurores boréales ou pas ?
Non, malheureusement, non.
Explorateur du système solaire et des astéroïdes, ça manque à votre palmarès.
Mais je ne suis pas allé assez haut en latitude. Ouais, c'est le problème.
Il faut aller avec Arnaud Guérin, alors, qui emmène donc les visiteurs se balader. Donc, vous avez en ce moment quand même un spectacle assez réussi. Hein. Il y a eu une belle intensité quand même cette semaine, Arnaud. Hein.
Oui, c'était plutôt intéressant. Et puis en plus, c'était assez symbolique pour moi en tant que géologue en même temps, parce que cette année, c'est le 150e anniversaire du voyage au centre de la Terre de Jules Verne.
Ah ben voilà.
Et nous étions au pied du Snæfellsjökull, qui est le volcan du voyage au centre de la Terre de Jules Verne.
Ouais.
Et donc, on allie le tectonique, le volcanique et les aurores boréales. Et en plus, quelquefois, vous pouvez même allier les deux, puisque vous pouvez être dans l'eau chaude et regarder les étoiles.
Ça va, la vie est belle.
Tout en disant.
Par rapport aux...
On est très jaloux.
Oui, j'imagine.
Est-ce que vous avez vu des grosses bêtes au centre de la Terre, justement ? Est-ce que vous êtes descendu dans les entrailles du volcan pour voir s'il y avait des choses un petit peu incroyables ?
Alors, vous savez comme moi que la science, la volcanologie a beaucoup évolué depuis Jules Verne, mais par contre, c'est la biologie qui nous a surpris, là, puisque juste au nord du volcan du volcan de la Terre, il y a un fjord qui s'appelle un port qui s'appelle Grundarfjörður, et là, à l'heure actuelle, il y a une migration annuelle du hareng, et on a des orques dans une concentration tout à fait exceptionnelle, et donc nous avons pu faire des très belles observations des orques donc à proximité de la côte, donc vous voyez que l'Islande recèle pour des naturalistes ou des voyageurs curieux de nature beaucoup de trésors.
Arnaud Guérin, une question de Philippe sur Internet, sur franceinter.fr, qui vous demande si l'intensité de la magnétosphère terrestre a un impact sur les aurores boréales, ou est-ce que ça n'est que l'histoire de soleil ?
Oui, à ma connaissance, bien sûr, il y a un équilibre entre les deux phénomènes, mais la source d'énergie qui va être à l'origine de l'activité aurorale, c'est essentiellement le vent solaire. Ensuite, le champ magnétique terrestre va jouer, puisque ça va permettre de pouvoir de répartir les particules, mais le vent solaire, c'est vraiment, entre guillemets, et pour faire simple, le carburant des aurores boréales.
Arnaud Guérin, est-ce que sur votre blog, arnaud.guérin.over-blog.fr, on peut trouver des belles photos d'aurores boréales ?
Eh bien, écoutez, dès lundi, vous aurez ça, puisque je serai...
Ah non, mais on les veut tout de suite. Nous, on ne va pas attendre lundi. Attendez, il faut bosser là un peu quand même.
Approchez-vous, on verra les images sortir du bain.
Ouais, alors ça, on ne va peut-être pas les mettre en ligne, mais pour les aurores boréales, c'est bien possible que dès ce week-end, il y ait quelques aurores boréales qui soient sur le site.
Il y a une question de Charlotte Bouvard qui vous demande ce que vous buvez en Islande.
Alors, on boit pas mal de choses. Quand on a bien froid, il y a un élément. Alors, l'eau soufrée, pas trop, mais il y a ce qu'on appelle le brennivin, qui est de l'aquavit parfumé à l'angélique, qui est un peu la boisson nationale.
Bon, c'est pour ça qu'on voit des elfes un peu partout là-bas au fond. Hein, on comprend maintenant.
Alors ça, c'est la dimension cachée du voyage, mais ça, je ne m'étendrai pas sur le sujet.
Bien. En tout cas, Arnaud Guérin, pour ceux qui souhaitent vous rejoindre, donc Lithosphère, et puis,
voilà,
puis ces voyages qu'on organise.
Un prochain voyage en mars pour ceux qui veulent vivre cette passion.
Ouais. Juste un point sur les volcans, là, puisqu'on a encore 30 secondes avant de vous quitter. Comment ça se passe au niveau du volcanisme islandais en ce moment ? Pas de soucis majeurs ?
Pas de risque majeur. Il y a eu de l'activité la semaine dernière sous le grand glacier qui s'appelle Vatnajökull, puisqu'il y a eu un lâcher d'eau, ce qu'on appelle un lâcher d'eau, c'est-à-dire qu'il y a de l'activité hydrothermale dans une des grandes calderas sous ce glacier qui est plus grand que la Corse, qui fait 8300 km². Et donc il y a eu une crue dans une des rivières qui draine ce glacier, qui s'appelle la Skaftaå, qui est due à l'activité hydrothermale. L'activité sismique est plutôt assez calme. En ce moment, il faut plutôt regarder vers le bout du voyage au centre de la Terre de Jules Verne, c'est-à-dire regarder vers la Sicile et particulièrement vers l'Etna qui a beaucoup d'activités à l'heure actuelle. Donc ça, c'est le grand spectacle européen du volcan en ce moment à l'Etna.
Merci Arnaud Guérin et bonne fin de séjour donc en Islande. On vous envie beaucoup. À bientôt.
Merci.
Au revoir. Raphaël Ithier, l'homme au pistolet qui vise des boulons. C'est ça, en fait. Hein.
Oui, c'est un peu ça.
On vous voit sur les photos pour lancer justement ce nouveau magazine scientifique Bimédia Futur Mag, 13h15, demain, sur Arte. Magazine qui s'intéresse à l'innovation. Alors, c'est un bras exosquelette que vous avez testé et qu'on voit un peu partout sur les photos de promo là, pour l'émission.
Absolument. C'est un bras d'exosquelette d'aide à la manipulation d'outils, parce qu'on a traité dans le premier numéro des exosquelettes par un mini-doc, un reportage sur l'utilisation des exosquelettes pour faire marcher les paraplégiques, qui est une innovation d'un monsieur qui lui-même est paraplégique et qui donc a développé ça et équipe des gens pour leur permettre de marcher à nouveau grâce à cette structure externe qui permet, structure externe articulée et donc programmable et qui donc permet aux gens qui sont cloués dans un fauteuil roulant de pouvoir remarcher.
Ça, c'est très impressionnant, vraiment dans le magazine, puisqu'on voit, vous suivez pendant une dizaine de minutes ces personnes qui tout d'un coup se lèvent de leur fauteuil pour aller marcher. On va écouter un extrait justement du doc qui passera donc demain sur Arte. C'est la troisième partie de ce triptyque Futur Mag, donc à 13h15 demain.
Il y a 10 ans, j'ai eu un accident de voiture. La voiture est sortie de la route et s'est encastrée dans un arbre juste à mon niveau. La barre métallique de la portière a été pliée et m'est entrée dans le dos.
André est assis depuis 10 ans. Il ne peut plus bouger les jambes. Sa paralysie est irréversible. André n'est pas venu à New York pour faire du tourisme, mais pour participer à un événement incroyable. Une course de personnes valides et de paraplégiques soutenues par un exosquelette. Cette structure robotisée permet à André de se dresser soudain de toute sa hauteur.
André, t'es vraiment très grand!
C'est grandiose! C'est génial!
Et c'est parti pour 1h30 de course à vitesse réduite. Pour les 8 participants paraplégiques, il s'agit de parcourir 1,6 km.
Voilà, extrait donc de Futur Mag, reportage très impressionnant autour de ces exosquelettes. Vous aviez une question, Benoît Carry, justement, pour Raphaël Ithier ?
Pour les exosquelettes, ça marche uniquement sur sol bien plat, où ils peuvent monter les escaliers. S'il y a des obstacles, ils arrivent à les passer ?
Non, c'est une difficulté encore, c'est-à-dire que la technologie n'est pas complètement aboutie. Si vous marchez, par exemple, sur un terrain en pente, on voit d'ailleurs un exemple dans le documentaire, l'équilibre étant quelque chose de très difficile à gérer, ce n'est pas quelque chose qui permet de passer partout.
Raphaël Ithier, en tout cas, un peu de science en plus sur Arte, parce qu'il y en a déjà beaucoup à travers le documentaire. C'est une chaîne en tout cas, qui fait beaucoup honneur à la science. C'est très réjouissant. Comment est née l'idée de ce magazine, alors Futur Mag ?
Alors, moi, je ne suis pas à l'origine de l'idée. C'est Effervescence, le producteur, qui en est à l'origine. Mmh. Et ils ont simplement répondu à un appel à projet d'Arte, qui voulait quelque chose sur un programme sur l'innovation et sur de l'innovation qui ne soit pas à long terme. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans des espèces de spéculations invérifiables, mais d'envisager les choses à 3, 5 ans, 10 ans, de manière à pouvoir s'appuyer sur des choses très concrètes et en cours en cours de développement.
Ouais, donc des innovations et des hommes, parce que c'est aussi le principe du magazine.
Oui, l'idée, ce n'est pas simplement de faire un décryptage technique de ce qui est en train de se tramer en matière d'innovation, mais de montrer les gens qui sont derrière ces innovations. Et ce sont la plupart du temps des gens très enthousiastes, très touchants, comme Amit Goffer, là, qui est à l'origine de cet exosquelette. Donc il y a vraiment la volonté de donner une dimension humaine à la technique et au progrès.
Ouais. Alors les innovations, au sommaire donc, de ce premier numéro, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir en dehors de ces exosquelettes, Raphaël ?
On va parler de drones, de drones qui sont en train de prendre une place pas encore importante, mais ça va le venir dans la société avec plein d'applications possibles pour différentes professions. Dans le domaine du secours en montagne, notamment, il y a des applications possibles. On parle également de plastique recyclable, puisqu'on a une émission qui est structurée toujours en trois chapitres. On va soulever, on va aller chercher des innovations qui traitent de l'homme, de la terre ou des objets. Mmh. Et à chaque fois, tout est articulé de cette manière-là, de façon à être assez pédagogique, assez claire.
Oui, donc ça, c'est votre triptyque hein, à partir de demain. Vous êtes scientifique à l'origine d'ailleurs, Raphaël Ittier. Hein ?
Oui, je suis biologiste.
Vous avez fait de la biologie. Qu'est-ce que vous étudiez ?
Je travaillais sur la mémoire des mouches.
Ah, très bien. La mémoire des drosophiles.
Absolument.
Absolument. C'était là-dessus.
Génétique là-dessus.
Ouais, vous avez décidé de les abandonner pour faire du journalisme.
Oui. Oui. Un jour, j'ai eu l'opportunité d'aller parler de science à la télé. C'était à Canal à l'époque.
Ouais.
Et donc j'ai gentiment terminé ma thèse en parallèle et j'ai été parler de science et j'ai quitté les mouches.
Ouais. Est-ce que vous trouvez facilement des sujets pour justement Futur Mag ? Est-ce que la science, est-ce que la technologie est facile à filmer ? Parce qu'on peut en parler facilement, mais là, il faut des images en l'occurrence.
Absolument. Avec le parti pris de faire des choses qui sont en cours de développement, nécessairement, il y a des gens qui sont en train de travailler dessus et il y a des choses à montrer de façon très pratique. Quant à savoir s'il y a suffisamment de sujets, la réponse est oui. Ouais. C'est absolument foisonnant. Il y a plein de choses qui sont en train de se tramer aux quatre coins de la planète. Oui, parce qu'on fait vraiment le tour de la planète. Il n'y a pas de frontière à l'innovation. Et donc, du coup, pour l'instant, il n'y a pas de limite.
Ouais. Et vous allez donc sur le terrain. Il n'y a pas de plateau. Vous êtes vraiment en extérieur. Voilà. Et vous allez rencontrer les chercheurs qui vous présentent leurs travaux, leurs innovations.
Voilà, on va pour l'instant dans les villes d'Europe et on parle un petit peu des innovations qui sont en lien avec l'endroit. On est à Berlin, à Stuttgart, à Paris. Et on voyage un petit peu.
Charlotte, dernière question pour finir, très vite.
À partir de quel âge ?
Ah, bonne question.
Tout public. Ouais. Là, on a un outil pédagogique qui est très très efficace, qui permet d'évoquer plein de choses avec de la simplicité. Il y en a des animations qui sont à la fois esthétiques, ludiques et très 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 pédagogiques. Ouais. Et donc du coup, le propos, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde.
Et le bimédia, très présent et très important.
Absolument,
c'est structuré. Vous avez vraiment une version connectée aussi pour proposer du contenu supplémentaire sur Internet et sur le site d'Arte.
Absolument, pendant l'émission, avant, après, il y a matière à trouver d'autres informations, des vidéos, d'interagir éventuellement même avec les intervenants dans certains cas.
Voilà, donc ce sera demain. Ne manquez pas ce premier numéro de Futur Mag, 13h15 sur Arte, présenté donc par Raphaël Ittier. Merci beaucoup à tous les trois. Passez un très bon week-end. Ravi de vous avoir croisé dans ces grosses têtes au carré. Et puis dans un instant, eh bien, ce sera la semaine dessinée de l'émission, avec cette semaine illustrée par Aurélie Bordenave et que vous pourrez là aussi découvrir dans sa version vidéo sur le site de France Inter. Pour l'instant, Marika Ackmann. Six for deep, you creep. Where do I stand?
shit that's captured by a fraud. And I guess it can't see. Oh man, beware. I know all there. Oh, so
Marika Hackmann avec Wolf à l'instant sur France Inter. Avant de se quitter, comme tous les vendredis, la semaine de la tête au carré, les moments marquants de notre émission scientifique, préparée par Violaine Ballet, et donc sa version dessinée à découvrir en simultané sur le site de l'émission. C'est Kaya qui nous dit ceci. Est-ce qu'on pourrait envisager demain un i-joint pour réduire la consommation de cannabis en France? C'est pas encore dans les rayons, mais...
Non, ça existe. J'en ai vu au Canada.
C'est des i-joints, ça existe
c'est
déjà?
C'est des modèles de cigarettes électroniques qui permettent de vapoter du cannabis sans combustion et sans
mais
tabac.
Mais il y a le cannabis, par contre.
Il y a le cannabis, oui. Ouais.
Bon.
C'est un autre débat.
Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me.
Il n'y a qu'une espèce, en fait, de crabes qui marchent devant lui. Ce sont des petits mictiris, des petits crabes des sables tropicales. Mais c'est vrai que tous les autres progressent de côté.
Il faut signaler qu'il y a beaucoup de crabes qui nagent aussi. Et ce qu'on appelle les crabes nageurs ont la dernière paire de pattes qui fonctionne en fait comme une pelle. Et bien souvent, ils s'ensablent à reculons. Donc un crabe est capable de reculer aussi, notamment pour se cacher et pour s'ensabler.
Donc il y a la marche arrière qui fonctionne
aussi très bien.
Chez le crabe.
Et plus que ce que beaucoup de personnes pensent.
Ce 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ, le Vésuve se réveille d'un long sommeil et entre en éruption.
Pline, attends !
Il est mort doublement martyr. Il est mort à la fois martyr de la science.
Mort pour la science, on pourrait dire ça
c'est
comme
pas
ça
tout à
ou
fait.
Pas
bon, si c'est rapproché du Vésuve, c'est avant tout parce qu'il était chargé d'organiser les secours.
Mais il aurait pu aller un peu moins loin, peut-être.
Où vas-tu ?
Je veux voir ça de plus près.
Victime de sa volonté de connaître, victime de sa volonté de porter secours, et donc il est doublement héros, d'une certaine manière.
Je vous dis qu'il y a dans l'univers, il y a des trous noirs. Il y a des trous noirs, c'est de la matière tellement dense qui a une force de gravité tellement énorme qu'elle absorbe tout, même la lumière, elle est absorbée.
Alors
et... Oh, non, mais il me... Par exemple, bon, vous comprenez...
Je comprends quand
vous... Oh, puis il se met dans des... Il y a de la truc qui flanche maintenant.
Voilà, la semaine de la tête au carré, sa version dessinée, Aurélie Bordenave, Sophia Zandotti. Et vous retrouvez donc dès maintenant la vidéo de cette semaine avec les sujets des émissions franceinter.fr.